France Culture. France Culture, question du soir, Matteo Caranta.
Depuis son investiture le 20 janvier dernier, le président des États-Unis, Donald Trump, a signé 170 décrets. C'est plus qu'aucun de ses prédécesseurs. Les mesures s'enchaînent à un rythme tel qu'il devient difficile d'en saisir la hiérarchie, d'en évaluer les menaces, d'en mesurer les conséquences. Pourtant, face à ce mélange d'attaques visant le pouvoir des juges ou les agences de l'État et de déclarations agressives et tonitruantes dont nous sommes parfois les témoins sidérés, la crainte d'un glissement autoritaire s'intensifie, comme le montraient les manifestations knocking organisées un peu partout dans le pays. Alors 6 mois, tout pile après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, comment qualifier les bouleversements en cours aux États-Unis? Que peuvent les contre-pouvoirs? Que reste-t-il de l'opposition? Et va-t-on bientôt cesser de parler de la démocratie en Amérique? Voilà quelques-unes des questions qui nous animent ce soir et que nous allons explorer avec nos 3 invités. Et avec nous pour en parler, Eleonora Bottini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, professeur de droit public à l'université de Caen, plus récemment professeur invité à l'université Fordham à New York, et vous travaillez sur les relations entre les juges et les élections, thématique qui va nous intéresser ce soir. À vos côtés se trouve Loumir Lapré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes activiste, notamment sur les questions de démocratie sociale et de vote en milieu rural, et à ce propos, vous avez passé l'année aux États-Unis grâce à la bourse Fulbright pour étudier le vote rural Trump, et justement, vous nous ferez peut-être un retour de terrain sur la question. Et enfin, depuis New York, Bernard Hartcourt, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Caranta.
Merci de vous être connecté avec nous de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes professeur de droit et de théorie politique à Columbia University, directeur d'études à l'EHESS, et vous avez fait paraître un livre en 2018, pas encore traduit, The Counter-Revolution, How Our Government Went to War Against Its Own Citizens, pardonnez-moi pour l'accent, La Contre-Révolution, comment notre gouvernement va en guerre contre ses propres citoyens. C'est de ça qu'il est question ce soir dans Question du soir. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
La Cour suprême a annoncé une victoire monumentale en faveur de la Constitution, de la séparation des pouvoirs et de l'état de droit. Grâce à cette décision, nous pouvons désormais engager les démarches nécessaires pour mettre en œuvre de nombreuses politiques. Celles qui avaient été injustement bloquées à l'échelle nationale, comme la fin du droit du sol, la suppression des financements pour les villes sanctuaires, la suspension de l'accueil des réfugiés, le gel des financements inutiles, la fin du financement par les contribuables fédéraux de chirurgie pour la transition de genre et de nombreuses autres priorités du peuple américain.
Le Congrès a plié devant Donald Trump. Le Congrès, mené par les républicains, très tôt a délaissé ses pouvoirs en acceptant toutes les nominations de Donald Trump. Le Congrès ne s'est pas vraiment exprimé d'une seule voix. Les démocrates, hors d'eux, sont éparpillés. Mais la majorité républicaine ne s'oppose pas à Donald Trump. Et c'est inquiétant.
La démocratie est prise pour cible juste devant nos yeux. Le moment que nous redoutions est arrivé. Donald Trump est en train de manier un boulet de démolition pour détruire le projet historique de nos pères fondateurs. 3 pouvoirs égaux formant un gouvernement indépendant. Il n'y a plus d'équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir. Le Congrès répond aux abonnés absents. L'état de droit cède de plus en plus la place au fait du prince.
L'état de droit cède de plus en plus la place au fait du prince. Mais s'agit-il pourtant pour autant d'une crise démocratique? Eleonora Bottini, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il y a une inflation de termes, de mots pour tenter de décrire sa politique. On a parlé de libéralisme autoritaire, c'est un mot ancien qui remonte à une tradition juridique. D'autres sont des néologismes qui ont émergé dans l'espace public. Il y a eu techno-féodalisme proposé par l'ancien ministre grec Yanis Varoufakis, carbofascisme, fascisme, disait l'historien Jean-Baptiste Fressoz, national capitalisme suggéré par l'économiste Thomas Piketty et j'en passe. Comment qualifieriez-vous, vous, Eleonora Bottini, ce qui est en cours aux États-Unis aujourd'hui?
Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai un qualificatif qui marche mieux que d'autres, mais c'est sûr que de néologisme, on en a pas mal. Je peux en citer un autre, démocrature, qui serait une sorte de traduction française de democratorship, qui a été connue aux États-Unis, pour indiquer quelque chose qui, à mon avis, est important, ou en tout cas intéressant à souligner, la coexistence entre une source électorale, une source de pouvoir électoral. Donald Trump a été élu légalement, il n'a pas fait un coup d'État. Il a tenté d'en faire un le 6 janvier 2021, ça n'a pas marché. Celui-ci, en revanche, n'en est pas un. C'est arrivé au pouvoir et issu des élections. Et en même temps, évidemment, le contenu des décisions prises est tout à fait contraire à certains des principes des démocraties constitutionnelles telles qu'on les appelle aujourd'hui, c'est-à-dire des démocraties où qui remporte les élections ne peut pas tout faire. On dit même, avec une vision un peu liée à la théorie de Schumpeter, de cet économiste qui parlait de démocratie, où la démocratie étant un régime où celui qui gagne ne gagne pas tout et celui qui perd ne perd pas tout. Or là, on est dans une situation où on a l'impression que qui a gagné a tout gagné et qui a perdu a tout perdu. Et cela est quand même également lié à un autre aspect dont on parle peut-être un petit peu moins ici en France, qui est la question des partis politiques. La constitution américaine n'était pas spécialement faite pour qu'il y ait deux grands partis politiques. Là, il y en a un qui a tous les pouvoirs en main.
Et on va revenir sur la capacité du Parti démocrate à répondre à ces attaques, ou en tout cas à exister politiquement. Bernard Harcourt, je vous pose la même question qu'à Eleonora Bottini. Comment qualifierez-vous ce qui est en cours aux États-Unis ?
Alors vous savez, j'ai déjà qualifié ça d'une contre-révolution moderne, donc une phase de démolition de cette nouvelle contre-révolution, avec bien sûr avec des tendances autocratiques. Je crois bien qu'on est dans une phase de démolition de la part de Trump de l'État administratif américain, comme on l'a connu depuis le New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Et donc, dans ses premiers mois, ce qu'il a fait, le président, c'est il est en train d'essayer de vraiment démolir toute une établissement de ministères, d'agences indépendantes, de tout le travail, vraiment de toute la bureaucratie fédérale. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Et alors, c'est c'est dur à voir exactement où ça va se terminer, mais c'est certainement que ça ne va pas se terminer avec un petit État fédéral dont souvent les conservateurs aux États-Unis parlent, parce que en fait, en même temps qu'il est en train de démanteler tout l'appareil administratif, il est en train de mettre en place toute une nouvelle agence policière, le ICE, qui donc pour
la police
pour
de l'immigration, oui,
la police de l'immigration, donc une police beaucoup plus grande que n'importe quelle autre police qui ait existé aux États-Unis, beaucoup plus grand que le FBI, beaucoup plus grand que tous les autres appareils policiers qui ont existé.
Donc, oui, budget en prévision de l'ICE, 170 milliards de dollars, c'est plus que le budget du ministère de la Défense d'un pays comme la France.
C'est absolument énorme. Et donc, on voit que ce n'est pas un petit État qu'ils ont en tête, mais un État, je dirais, un État policier, vraiment.
Je voulais faire réagir, finir ce tour de table sur la qualification de ce qui est en cours. Et puis, bien sûr, je vous redonnerai la parole, Bernard Harcourt. Loumir, après, je vous en prie.
Alors moi, je suis pas constitutionnaliste, donc je sais pas exactement quel mot utiliser. Par contre, je sais ce que je vois sur le terrain et ce que les gens disent. Et ce dont ils ont l'impression, c'est de s'être fait avoir. C'est que les raisons pour lesquelles ils ont voté pour Donald Trump, c'est pas du tout ce qui est en train de se mettre en place en termes de priorité politique. Donc forcément, il y a un immense moment de dissonance cognitive où les gens se disent « Mais attends, moi j'ai voté pour ça. » Et voilà les actes. Donc à partir de ce moment-là, se met en place plein de raisonnements différents en fonction de la personne pour justifier ce décalage très fort entre la promesse et les actes sur lesquels on pourra peut-être revenir plus tard quand on aura un peu plus de temps sur la question.
D'accord. Pardonnez-moi, Eleonora Bottini, il y a une mesure validée par la Cour suprême américaine en particulier qui a fait beaucoup parler, fait couler beaucoup d'encre ici en France, c'était le 27 juin dernier, lorsque la Cour suprême américaine est revenue sur le principe des injonctions universelles. On y a vu en France vraiment un acte, le passage d'une ligne rouge dans les attaques contre l'État de droit, c'est-à-dire alors cette injonction universelle, rapidement, la capacité des juges fédéraux de première instance à suspendre des décisions exécutives, des décisions du gouvernement pour l'ensemble du pays, en attendant que soient examinées sur le fond ces mesures. C'est de considérer que des mesures pourraient être potentiellement anticonstitutionnelles et que donc ils peuvent les suspendre. Est-ce que cette décision de la Cour suprême américaine est cette ligne rouge qu'on a beaucoup décrite en France, selon vous ?
Alors, elle l'est et elle ne l'est pas, au sens où c'est sûr qu'elle marque un tournant dans la façon dont l'administration Trump cherche à réagir à des assez nombreuses défaites judiciaires depuis le début du mandat. Et ça, clairement, on en parlera sûrement après, mais un des moyens de résistance à l'encontre de cette administration est la résistance judiciaire, l'organisation de recours massifs pour bloquer la plupart des initiatives de l'administration Trump. Beaucoup ont réussi, et évidemment, un élément clé de cette réussite est la possibilité, pour une seule affaire, d'avoir un effet national. C'est pour ça que ces injonctions universelles s'appellent aussi injonctions nationales, c'est-à-dire elles ont pour effet de bloquer un certain ordre exécutif sur tout le territoire national, en attendant de voir si l'affaire, au fond, sera gagnée ou perdue. Donc, ce qu'il faut souligner, et la raison pour laquelle je dirais c'est un tournant, mais il faut quand même qu'on attende de voir ce que ça va donner, parce que tout cela, ce sont des recours en urgence. Donc, c'est des injonctions temporaires pour bloquer certaines mesures, ou bloquer le blocage des mesures, en attendant de voir ce que va donner l'affaire au fond. Mais ça va prendre plusieurs mois, voire une année, et donc on peut pas avoir la réponse tout de suite. Il n'empêche que il est évidemment, c'est une contre-réaction, donc ça fait écho à la contre-révolution de Bernard Harcourt, puisque vous avez parlé de record d'ordre exécutif, il y a un autre record, un peu moins connu parce qu'un peu technique, qui est le record des recours en urgence faite par l'administration Trump devant la Cour suprême. Un record absolu. Alors,
les recours en urgence, pour bien être clair, ce sont des recours que le gouvernement américain, l'administration Trump, utilise contre
des injonctions judiciaires qui leur sont défavorables. Ouais. Et donc, paraît-il que l'administration Trump en a fait plus en ces quelques mois que les deux mandats de Barack Obama en total. Ça veut dire que l'administration, stratégiquement, inonde la Cour suprême de ces tentatives de blocage de ce que les juges de première instance ont essayé de décider.
Donc c'est vraiment la question de la place du juge en tant que contre-pouvoir qui est au cœur, là, dans les six derniers mois que l'on vient de vivre de politique américaine, Leonora Botini ?
Tout à fait. Et alors, la particularité de toutes ces affaires aux États-Unis, c'est qu'évidemment, il y a un plaignant, il y a un demandeur. Donc la question est toujours de savoir, est-ce qu'il n'y a que ce demandeur qui peut bénéficier du blocage de la mesure qui est faite à son encontre, ou est-ce que celle-ci peut bénéficier au pays tout entier ? Et évidemment, dans l'affaire de fin juin, la question est de savoir si n'importe quel enfant né sur le sol américain dont les parents ne peuvent pas démontrer d'être...
C'est une affaire sur le droit du sol, oui.
Sur le droit du sol. Est-ce que c'est uniquement les demandeurs de ces affaires ? Il y en a plusieurs qui sont joints. Avec plusieurs demandeurs, d'ailleurs, il y a des États, il y a des associations, il y a des mères enceintes, des femmes enceintes. Est-ce que il n'y a que ces personnes qui pourront bénéficier du blocage de la mesure, ou alors est-ce que tout le pays et toutes les personnes de la même situation pourront en bénéficier ? Et c'est là, évidemment, que tout s'est joué sur une question procédurale un peu technique, mais qui a pris une importance énorme au vu des enjeux du pouvoir judiciaire fédéral.
Bernard Harcourt, on parlait de la démocratie en Amérique, impossible de pas penser au livre de Tocqueville, publié en 1835, qui décrit justement le pouvoir accordé aux tribunaux américains comme l'une des plus puissantes barrières qu'on ait jamais élevées contre la tyrannie des assemblées politiques. C'est cela qui se joue, c'est le politique contre le juge aux États-Unis aujourd'hui. Est-ce que derrière l'action, les recours d'urgence de Donald Trump, on peut voir une tentative de redéfinir de l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis ?
Oui, mais il faut bien comprendre que ces recours en urgence, bien qu'ils soient peut-être exceptionnels et qu'il y en a beaucoup, c'est tout de l'état de droit américain. C'est ça qui est tellement paradoxal, en fait. Je veux dire, Trump est en train d'utiliser l'état de droit américain pour ses buts politiques, mais il n'est pas en train de circonvertir ces questions de droit.
Ce qu'on appelle le legal hardball, c'est-à-dire le recours maximal à des mesures juridiques légales à des fins peut-être pas forcément démocratiques.
Oui, mais il faut comprendre. Biden, le président Biden et l'administration Biden, eux aussi, ils étaient contre les injonctions universelles, nationaux. Ils étaient contre ça parce que ça les avait arrêtés à une fois après l'autre. C'est comme ça que les polices de Biden n'ont pas pu être mises en place vraiment. Que ce soit pour les student loans, que ce soit pour les autres choses, ils ont eu les mêmes problèmes. Mais ils ont pas fait ces recours d'urgence s'ils n'avaient pas la Cour suprême de leur côté. Ce que Trump est en train de faire, c'est vraiment... Il a la Cour suprême dans sa poche. Et la Cour suprême, c'est la Cour suprême des États-Unis. Ça veut dire que quand les cours fédéraux de première instance, ils émettent des avis qui vont contre Trump... il fait recours à la Cour suprême et tout ça c'est dans l'état de droit américain, c'est parfaitement légitime, etc. Le problème en fait, c'est qu'on a une conception un peu, je dirais, formelle de ce qu'est l'état de droit. Moins formel aux États-Unis qu'en France, parce qu'aux États-Unis, il y a une tradition réaliste, une tradition juridique américaine de réalisme, ce qui veut dire que on comprend très bien que, en fait, les juges font de la politique. Aux États-Unis, on le comprend très bien. C'est très différent qu'en France, avec la culture juridique et la compréhension de ce qui se passe est très différent aux États-Unis. Donc, on sait que les juges, en fait, ils font de la politique. Ça se voit. C'est Trump qui a mis trois juges sur la Cour suprême. Il y en avait trois conservateurs. Il en a ajouté trois. Donc, ils ont six places. Donc, c'est 6 sur 9 sont conservateurs. Et voilà. Le mot, il me semble que le mot qu'il faut vraiment essayer de déconstruire ici ou comprendre mieux, c'est l'état de droit. Parce que Trump, il est en train, il joue toujours sur l'état de droit. Vous savez, il est toujours en train de faire des, que ce soit des recours d'urgence ou d'autres recours ou de faire du litige. Il vient de faire du litige contre le Wall Street Journal parce qu'ils ont écrit un article sur Epstein, mais il utilise toujours le droit. Et c'est ça qui est important à essayer de décortiquer, à comprendre.
Alors, décortiquons, Loumir Lapré, quelle est l'idéologie qui sous-tend cette manière d'appliquer la politique? Est-ce qu'on peut lire une forme de doctrine politique derrière ce légalisme juridique que vient de décrire Bernard Arcault?
Je pense que ce qui ressort, c'est le brutalisme, mais ça, c'est le style qui est assez intrinsèque à Donald Trump. Et je crois que différentes factions de l'électorat MAGA s'en arrangent, parce qu'en fait, selon à qui on demande, tout le monde a... C'est un alliage un peu improbable, quand même, cette coalition MAGA. Donc, entre les évangéliques, dont le sujet principal, c'est le retour des Juifs en Israël pour pouvoir anticiper le jugement dernier, les catholiques, dont le sujet numéro un est devenu l'interdiction absolue de l'avortement sur le territoire américain, et les espèces de turbo-capitalistes comme Peter Thiel et la bande de PayPal dont le projet
vous aussi vous aviez un néologisme imposé.
et de je pense assez, enfin je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes, hein, de transformer les États-Unis dans une espèce de un état techno-féodaliste où en gros c'est Yavin comment il s'appelle alors, grand théologien, je vais retrouver, qui dit notre vision idéale, ce sont des cités-États avec un techno-César à la tête. Et de toute manière, la démocratie est l'ennemi de la liberté. Et les États-Unis sont fondés sur un idéal de liberté. Donc, il n'y a pas de raison de soutenir la démocratie, finalement.
Mais alors, on voit Bernard Arcourt souligner tout à l'heure la contradiction avec l'exemple de cette police de l'immigration, que la tendance vers laquelle allait Donald Trump était... peut-être de manière paradoxale, vers plus d'États, plus de contrôle.
Oui, c'est toujours assez fascinant quand on parle aux conservateurs qui nous disent le problème, c'est le gros gouvernement, big government, et que à côté de ça, ils votent toujours plus de crédits militaires, toujours plus d'argent aux sécuritaires. Donc ça, je veux dire, c'est une contradiction américaine qui n'est pas nouvelle. Et c'est vraiment le cherry picking de savoir ce que t'aimes bien, en fait, dans les dépenses publiques, oui ou non. Là, en l'occurrence, ce qu'ils aiment bien, c'est plus de sécurité, parce que je sais pas si vous avez suivi la création de cet atroce centre de rétention administrative, en tout cas l'équivalent de Alligator Alcatraz, qui, en 8 jours, a été complètement créé ex nihilo, donc c'est bien que...
Au milieu de marécages. Hein,
au milieu de marécages, avec des jeux de mots extrêmement douteux sur le fait que ces alligators qui peuplent ces marécages auraient bientôt 65 millions de gens à manger. 65 millions, c'est le nombre de latinos aux États-Unis.
Et non pas le nombre d'immigrés illégaux ou de clandestins que souhaite officiellement
tout à fait, de personnes sans papier.
Donald Trump. Eleonora Bottini, je voulais vous faire réagir sur ce que disait Bernard Harcourt, qui soulignait la légalité et avant tout le jeu juridique en cours. Vous avez noté dans une tribune parue il y a quelques mois dans Libération, un message paru de Donald Trump, paru sur les réseaux sociaux, dans lequel il disait « Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi ». Alors, est-ce que Donald Trump se considère au-dessus des lois et quelle doctrine juridique est-ce que ce message raconte, selon vous ?
Je pense que pas que ça raconte un message de se situer véritablement au-dessus des lois, mais plutôt un message de vouloir les utiliser à sa guise, de manière instrumentale. Et ça répond à ce que disait Bernard Harcourt tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un usage, presque une exploitation, des outils juridiques qui sont à disposition, y compris les outils juridiques de l'urgence. Et cette idée de sauveur de la nation qui ne peut commettre aucune faute, c'est en réalité l'idée des états d'urgence, de l'état d'urgence, c'est-à-dire dans certaines situations où il existe une menace existentielle, on peut aller au-dessus de certaines lois. Mais je voulais revenir aussi sur la déconstruction de l'état de droit, parce qu'il est vrai évidemment que toutes ces actions quantitativement extraordinaires sont faites en respectant certaines formes juridiques. Mais il faut quand même aussi rappeler que la Constitution des États-Unis, une Constitution c'est souvent là où on trouve les outils de l'état de droit, ne dit rien sur énormément des choses qui sont en train de se passer, ou alors dit très peu. Les ordres exécutifs n'existent nulle part dans la Constitution des États-Unis. L'usage de l'urgence contre les migrants, les gangs, sont issus d'une loi de 1789. Pareil pour la loi sur les pouvoirs des juges fédéraux. Une loi de 1789 qui a été sortie à un moment où il n'existait pratiquement même pas la moitié des juges fédéraux qui existent aujourd'hui. Donc tout ça veut dire que l'état de droit est lacunaire fondamentalement, en tout cas la partie constitutionnelle de celui-ci. Et cela a un impact, je pense, très très important sur ce qu'on peut en dire et comment on peut déconstruire cette notion spécifiquement aux États-Unis.
Bernard Harcourt, on l'entendait en début d'émission, la voix du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, qui parlait d'une démocratie prise pour cible, du projet des pères fondateurs, un discours très politique, qui parlait de 3 pouvoirs et contre-pouvoirs. Et depuis le début de l'émission, nous n'avons parlé que 2 d'entre eux, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Il y a le troisième qui est le pouvoir législatif. Quelle est la place du Sénat? Où se trouve le Sénat américain depuis les 6 derniers mois?
Disons que le Sénat et l'Assemblée, enfin the House of Representatives, se sont pliés entièrement, agenouillés devant Trump. Donc ils sont eux aussi dans la poche de Trump. De ce fait, Trump a pu faire ses décrets, utiliser ses décrets impériaux sans avoir vraiment besoin du Sénat ou de l'Assemblée, sans avoir besoin du Congrès. Et ça se voit, je veux dire, le Congrès est en train de faire très peu maintenant. Bon, ils viennent de passer un budget, mais c'était aussi, il faut bien comprendre, c'était pas une loi. Il n'y avait pas de possibilité de filibuster au Sénat. C'était simplement un budget qu'ils ont fait. Vous êtes encore là?
Oui, on vous écoute.
Oui. OK. Et donc, tout se passe vraiment sans le Congrès, qui sont à ses côtés, qui le soutiennent, qui disent, qui sont derrière lui, mais qui font très peu. Donc le pouvoir législatif aujourd'hui est très réduit, mais en partie c'est parce qu'il s'est plié au pouvoir exécutif. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est assez paradoxal encore une fois, si on lit l'idéologie de conservatrice, par exemple l'idéologie du Heritage Foundation, de la fondation Heritage.
Héritage, qui est à l'origine du programme de Donald Trump qui a été appelé le projet 2025.
Exactement, exactement. Si on lit de près le projet 2025, en fait, ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent qu'ils veulent, c'est un pouvoir législatif. Il faut bien comprendre, dans la Constitution américaine, le pouvoir législatif, c'est le premier article. Ils parlent toujours du premier article comme étant le seul pouvoir légitime aux États-Unis, parce que c'est le pouvoir qui est le plus accountable, responsable, qui est le plus démocratique, qui représente la voix du peuple et la souveraineté populaire. Et en fait, quand on regarde de près Project 2025, ils disent que c'est ça qu'ils veulent, la souveraineté populaire à travers le Congrès, mais ils disent que le président a beaucoup de pouvoir pour éliminer l'État administratif. Et c'est ce qu'on voit exactement maintenant. Donc, président Trump qui essaie d'éliminer le ministère de l'Éducation.
Qui supprime également des agences indépendantes. Et je rappelle un chiffre paru dans le Grand Continent, le média Le Grand Continent ce week-end. Selon leurs calculs, Trump aurait déjà appliqué 45% du projet 2025.
France Culture. Question du soir, Matteo Caranta.
On s'en sort bien, oui. Et en tant que pays, si la Fed baissait enfin ses taux, on achèterait de la dette bien moins chère, c'est dommage. Ah, ce type, est-ce que ça vous arrive d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas très malin et pourtant vous devez travailler avec lui? Ce n'est pas un gars intelligent, il s'inquiète pour l'inflation. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, mais s'il y a de l'inflation dans 6 ou 9 mois, eh bien, vous baissez les taux ou vous les augmentez, enfin, vous faites ce que vous voulez. Peut-être que je devrais aller à la Fed. Est-ce que j'ai le droit de me nommer moi-même? Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de me nommer à la Fed? Je ferai un bien meilleur boulot que ces gens-là.
Voilà, Trump peut-être ferait un meilleur travail que le président de la Fed, Monsieur Powell, qu'il qualifie de personne stupide avant la décision sur les taux d'intérêt. Vous êtes sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée ce soir aux enjeux démocratiques posés par l'action politique de Donald Trump 6 mois après son arrivée à la Maison-Blanche en compagnie d'Eleonora Bottini, spécialiste de droit constitutionnel, notamment professeur de droit public à l'Université de Caen, de Loumir Lapré, activiste, qui revient des États-Unis où elle a étudié le vote rural Trump, et de Bernard Harcourt, professeur de droit et de théorie politique à Columbia University, directeur d'études à l'EHESS. Loumir Lapré, Bernard Harcourt parlait à l'instant de ce projet 2025 de l'Heritage Foundation et se précisait que selon les calculs du média Le Grand Continent, 45% du projet avait été appliqué, comme si Trump remplissait ses promesses des campagnes et remplissait les promesses de ce projet 2025. Est-ce que, du coup, on peut savoir vers où va la présidence de Donald Trump à partir de ce constat?
Oui, je pense que c'est assez clair. Enfin, je veux dire, le projet 2025 le dit. Là où je trouve que c'est toujours très intéressant, c'est entre les gens qui savent, c'est-à-dire les personnes qui ont étudié le projet 2025, les personnes qui s'intéressent, qui lisent entre les lignes, qui étudient l'histoire, et les électeurs et les électrices que moi j'ai rencontrés, parce qu'on parle d'état de droit depuis tout à l'heure et de démocratie, mais je pense que vraiment les deux sont différents, au moins dans le ressenti, c'est-à-dire que ça fait bien longtemps que de très nombreux Américains pauvres ne se sentent plus vivre en démocratie, parce que on parle du pouvoir législatif juste avant, mais le pouvoir législatif depuis 2010, et qu'il y a cette décision de la Cour suprême Citizen United qui dit que, en gros, l'argent, c'est de la liberté d'expression, donc il n'y a pas de possibilité de réduire l'argent en politique. À partir de cette décision, les élections ont été confisquées par les milliardaires. Maintenant, ça coûte des millions d'euros de se présenter à une élection. Il n'y a pas de protection des consommateurs. Il y a des tentatives très très nombreuses de supprimer ou de réduire l'accès au vote, notamment dans les États du Sud, les anciens États esclavagistes. Donc en fait, ça fait bien longtemps que si on part du principe que la démocratie, c'est le contrôle du peuple, que de très nombreux Américains ne se sentent plus en contrôle de leur État et de leur vie. Moi, les personnes avec qui... j'ai vécu pendant 7 mois. Ce sont des personnes qui travaillent, qui ont 2 emplois, donc qui travaillent le matin, mettons à une station-service de 5h du matin à 14h, puis qui sont serveuses, qui font de la sécu de 16h à 1h du matin. Mais comment voulez-vous qu'il et elle lisent le projet 2025? Donc bien sûr que, et Trump l'a bien compris, c'est pour ça qu'il a passé beaucoup de temps notamment sur les chaînes YouTube et les chaînes des influenceurs de la galaxie MAGA, qu'il respecte d'ailleurs beaucoup plus que y compris les médias traditionnels conservateurs, il parle de 2 ou 3 trucs. Et là-dessus, il ment. Parce qu'une des promesses de campagne, c'était plus d'inflation. Et c'était, on ne déportera, alors expulsera, pour le traduire en français, que les personnes sans papier criminelles. Et on voit que c'est littéralement l'inverse qui est en train de se passer. Les prix continuent à augmenter. Et c'est là qu'il y a plus, je le rajoute parce qu'il en a fait un thème de campagne, le dossier Epstein. Il allait tout révéler, nous expliquer comment les démocrates ont constitué un culte satanique, pédophile. Enfin, et en fait, sur toutes ces promesses qui ont touché le cœur des gens, il est en train de faire demi-tour. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait, à ce moment-là, c'est quand est-ce que les gens se disent à un moment, là, on s'est fait avoir, ce qui est très difficile, humainement, a fortiori quand on se sent méprisé par une grande partie de la population américaine. Enfin, moi, les gens avec qui j'étais, c'est des anciens mineurs, c'est des personnes qui ont structurellement beaucoup plus de risques d'addiction, qui n'ont pas, pour la plupart, de diplômes, y compris du bac, quoi, et qui sont extrêmement précarisées et qui se sentent largement marginalisées. Alors, elles le sont économiquement, mais aussi culturellement, qui se sentent méprisées. Eh bien, quand les démocrates et les lecteurs du New York Times viennent leur faire la leçon en leur disant « on vous l'avait dit, là le grand truc en ce moment c'est fuck around and find out, bah voilà, vous avez voulu jouer,
bien joué avec le feu, vous vous êtes brûlé ».
Et qu'on leur dit « vous le saviez », mais c'est faux. Déjà, c'est faux, je pense qu'il y a énormément de personnes de bonne foi qui pensaient sincèrement que en limitant l'immigration, ils allaient pouvoir avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et surtout, si on se passe d'un point de vue émotionnel, c'est très difficile déjà quand on se sent en minorité, qu'on se sent attaqué et méprisé, de dire « ben ouais, je me suis trompée ».
Une réaction, Eleonora Bottini ?
Oui, j'étais en train d'écouter et réfléchir encore à ce projet 2025 et aux similitudes qu'on peut trouver avec la Hongrie de Orban. On parlait de néologisme, la démocratie libérale étant une expression qu'on a utilisée pour la Hongrie, et on a des preuves qu'une bonne partie du projet 2025 a été écrit à Budapest avec l'aide de think tank liés, voire même directement liés au parti de Viktor Orban, qui par ailleurs est juriste et qui sait très bien donc, enfin qui a fait de l'utilisation du droit contre certains aspects de l'état de droit ou certains aspects des démocraties libérales le cœur de sa politique. Et c'est également une politique qui est faite en visant des groupes qui se sentent méprisés par certaines autres institutions. Dans le cas de la Hongrie, on sait qu'en partie, c'est le reste de l'Europe, les autres pays de l'Union européenne en tant que telle, et donc d'en faire une sorte de combat culturel, nous contre les autres.
Ça, c'est l'ennemi extérieur. Peut-être dans le cas de Trump, la différence, c'est que c'est peut-être plus un ennemi de l'intérieur que point Donald Trump.
C'est tout à fait. Je pense que c'est une bonne différence, mais qui montre à quel point, du coup, cette instrumentalisation des outils juridiques est également est un aspect de la contre-révolution. De la réaction, de cette volonté réactionnaire, mais l'autre aspect est sans doute aussi une guerre plus culturelle, essayant de faire appel aux instincts d'une certaine population.
Bernard Harcourt, qu'en est-il du Parti démocrate ? On a cité le discours là du gouverneur de Californie après la crise, lorsque Donald Trump a envoyé des corps de marine à Los Angeles, a réquisitionné la garde nationale de Californie pour intervenir contre les protestations qui elles-mêmes avaient lieu en réaction répression, aux contrôles et aux arrestations perçues régulièrement, souvent comme arbitraires de la police de l'immigration. Il y a un autre exemple, c'est celui de New York. Il y a un candidat, Mamdani, qualifié de communiste islamiste par le vice-président américain, J.D. Vance. Donald Trump a lui-même mis en cause la légalité de son séjour aux États-Unis. Est-ce que malgré la réaction de l'administration Trump à ces deux événements, californiens et new-yorkais, est-ce qu'il dénote d'un réveil du Parti démocrate ? Est-ce que le Parti démocrate a les moyens aujourd'hui de mobiliser au sein de son parti et à l'extérieur de celui-ci, Bernard Arcault ?
Alors je dirais que l'établissement du Parti démocrate...
L'establishment,
oui. Les chefs, etc., ne font pas contre-pouvoir aujourd'hui. Donc, il y a un manque absolu de résistance de la part des plus grands chefs et de l'établissement du Parti démocrate. Bon, on a vu un peu avec le gouverneur en Californie, mais à part ça, c'est vraiment silence. Et la stratégie qui semble prendre, c'est ce que James Carville, un des stratégistes démocrates, appelle le rope-a-dope de Muhammad Ali.
Donc, ça
veut dire que d'essayer de laisser les républicains faire ce qu'ils veulent et dépenser toute leur énergie et se voir aplatir eux-mêmes sans vraiment résister jusqu'au dernier moment. Quoi. C'était la stratégie fameuse de Muhammad Ali, le boxeur. Il tapait pas, l'autre se fatiguait, puis finalement un grand coup à la fin. Donc c'est ça. Mais en fait, ce qu'on voit avec, et vous avez bien mis le pouce sur la candidature de Zoran Mandani pour maire de New York, ça c'est vraiment très intéressant parce que ça c'est toute une autre génération, beaucoup plus jeune, bien sûr, dans ses trentaines d'années, mais aussi plus radical. Bien sûr, il ne se qualifie pas de communiste, il n'est pas un communiste, il est social-démocrate. En France, ça deviendrait, il est de gauche, voilà. Mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus ferme, populiste et quand même plus à gauche que le reste du parti. Et ce qui est intéressant, et c'est fascinant, il a gagné très largement à New York. Il représente peut-être le futur du Parti démocrate. Et les chefs du Parti démocrate ne sont pas prêts à s'aligner avec lui, ni de lui donner leur support. Donc on voit en fait tout l'établissement démocrate qui essaye de résister à quelqu'un comme Mamdani, en essayant de réhabiliter l'ex-gouverneur de New York, Andrew Cuomo,
qui a perdu la primaire démocrate.
Qui a perdu de plus de 12 points la primaire, qui a dû lui-même démissionner il y a quelques années comme gouverneur à cause de questions de sexual harassment, donc il a été décrédibilisé, mais qui est maintenant soutenu un peu par tout l'établissement pour essayer d'éviter qu'il y ait un jeune un peu plus
allez, énergique radical, on peut dire le mot.
Exactement, ouais, exactement.
Lumière Lapraie, il y avait déjà deux partis démocrates en 2016 lors de l'élection d'Hillary Clinton. On se souvient de la candidature de Bernie Sanders qui était vue comme radicale. Il y a des figures comme Alexandra Ocasio-Cortez qui sont également montées. Même question que je posais à Bernard Harcourt. Qu'est-ce que se passe-t-il aujourd'hui au Parti démocrate ? Est-ce que ce parti, puisque tout à l'heure on parlait d'une constitution américaine qui n'était pas écrite pour imaginer deux poids lourds politiques comme ça, est-ce que aujourd'hui c'est le Parti démocrate qui a la possibilité de devenir le foyer d'opposition à cette démocrature souhaitée par Donald Trump ?
Alors ça devrait, mais ça n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Enfin, le Parti démocrate semble décidé à étouffer la totalité des oppositions pourtant extrêmement populaires qui sont en train d'émerger à cause de Donald Trump. Et ça n'est pas nouveau. Vous l'avez rappelé, la candidature de Bernie en 2016 puis en 2020 ont été systématiquement torpillée par le DNC, l'organe démocrate, je veux dire, on a des preuves de ça, que l'establishment démocrate a tout fait pour utiliser son pouvoir et ses ressources qui, je le rappelle, sont extrêmement élevées, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'alternative de gauche radicale. Alors, il faut voir ce qu'on appelle gauche radicale, hein, parce qu'en France, ça paraît en effet de la gauche de lambda. Enfin, je veux dire, c'est quand même la sécu, l'encadrement des loyers et les bus gratos. Alors, on repassera quand même pour la radicalité et le grand soir révolutionnaire de l'extrême gauche, parce que c'est quand même pas ça le projet. Et ça, c'est à tous les niveaux. Le DNC, donc cet organe de décision au niveau du parti, vient d'évincer David Hoggs, qui est un très jeune, je crois qu'il a 25 ans, qui est un survivant de la tuerie de Parkland, donc en Floride, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a une dizaine d'années. Il est devenu depuis un activiste pour la régulation des armes à feu très influent. Il avait gagné une place à la table des négociations au DNC et il avait un budget à louer au titre de ce poste. Et il a dit, moi je vais utiliser cet argent pour organiser des primaires dans des circos dont on sait qu'elles resteront démocrates quoi qu'il arrive, parce que on ne fait que dire, on a fait campagne quand même. Il faut rappeler que Kamala Harris a fait campagne comme la candidate de la démocratie, et pour autant nous sommes incapables de faire vivre la démocratie au niveau de notre parti. Il a été évincé, ça y est, il est viré sur une technicalité, ils l'ont remplacé. Donc moi, je serais américaine de gauche. Et d'ailleurs, ceux que j'ai rencontrés sur place sont bien plus en colère contre le Parti démocrate que contre le Parti républicain. Parce que le Parti républicain, il suffit en effet de lire le projet de 2025 pour savoir à quoi s'attendre. C'est-à-dire cette espèce de vision techno-féodalisme dont Curtis Yarvin, j'ai trouvé son prénom, est le grand penseur. Voilà. Pour autant, le Parti démocrate est assis sur un trésor de guerre et utilise à chaque moment et à chaque opportunité possible et inimaginable toutes ses ressources pour empêcher qu'il y ait une vraie alternative qui est populaire, qui est soutenue par leurs propres électeurs, qui émerge.
Alors, parlons des États-Unis, peut-être pour finir cette émission dans la minute et demi, allez, qu'il nous reste. Eleonora Bottini, vous parliez de la Hongrie comme source, source d'inspiration politique. À l'inverse, est-ce que tous ces effets cumulatifs là qu'on est en train de voir et qui construisent la crise démocratique, est-ce que, à l'inverse, il y a un risque de mimétisme en Europe, notamment sur le rapport entre juges et politiques, dont je crois que vous êtes en train de travailler en ce moment?
Je pense qu'on y est déjà. Je veux dire, on a un temps dans un pays comme l'Italie, par exemple, où les gouvernements de droite successifs, depuis Berlusconi jusqu'à Giorgia Meloni et aujourd'hui, ont insisté sur la politicisation des juges, alors qu'il y a en effet en Europe continentale bien moins accepté qu'aux États-Unis. C'est un argument qui est utilisé comme arme pour, par exemple, et c'est le cas de l'Italie, proposer des réformes de la justice qui permettent d'encadrer, de limiter, voire même de, si possible, diviser pour mieux régner sur la magistrature, considérée comme trop politique. Et en fait, cette étiquette de juge politisé est en réalité masque des volontés de limiter les contre-pouvoirs vis-à-vis du pouvoir exécutif. Tous les pays d'Europe et même au-delà deviennent de plus en plus concentrés sur le pouvoir exécutif. Les pouvoirs législatifs sont marginalisés, voilà. Donc je pense que le mimétisme, il y est déjà, et qu'il est quand même assez dangereux.
Eh bien, nous prendrons cet avertissement pour ce qu'il signifie. Merci beaucoup à vous trois, Eleonora Bottini, spécialiste de droit, professeur de droit public à l'université de Caen, Loumir Lapré, activiste, un livre à paraître, Ces gens-là, qui parle cette fois-ci de ruralité et de politique, mais en France, sortira chez Payot le 24 septembre, et enfin, depuis New York, Bernard Harcourt, merci beaucoup de vous être connecté, professeur de droit et de théorie politique à Columbia Université et directeur d'études à l'EHESS. Merci beaucoup à Maud Yaïch qui a préparé cette émission, à Loïse Guérin la programmation, Vivian Le Cuivre à la réalisation et la technique ce soir, l'ami Alexandre Dang. Nous, rendez-vous demain, même heure, même studio pour une émission qui sera consacrée à la recrudescence des morts au travail.